Clara, faut faire fermer les micros.
Oui. Alors, je vais tout de suite rappeler les règles pour cette visioconférence. Donc, je vous demanderai de bien garder vos micros fermés pendant toute la durée de la présentation, compte tenu du nombre de participants. Et je vous invite à poser vos questions dans le chat. Donc, vous pouvez les poser au fur et à mesure de la présentation. On aura des moments pour y répondre. Et également, en fin de présentation, on répondra à toutes les questions. Quand je présenterai, Laetitia et Théodore relayeront les questions. Et de la même manière, quand Laetitia et Théodore présenteront, je poserai les questions qui seront dans le chat. Alors, bienvenue à cette réunion de présentation du programme Dans mille communes, la forêt fait école. Donc, il est organisé par l'Union régionale des collectivités forestières de Nouvelle-Aquitaine et par la Fédération nationale des communes forestières. Donc, je me présente Clara Guérin. Moi, je suis chargée donc de la coordination du programme à la fédération et je vais laisser Laetitia et Théodore se présenter rapidement avant de commencer.
Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Laetitia Morabito et je suis coordinatrice et chargée de mission à l'Union régionale des collectivités forestières de la Nouvelle-Aquitaine.
Et bonsoir à tous, je suis donc Théodore Dumoz, chargé de mission pour l'URCOFOR, mais basé à Limoges pour la partie Limousin-Périgord.
D'accord, merci. Alors, ce programme, il est porté par la Fédération nationale des communes forestières et on voit en bas, sur cette première diapo, donc tous les partenaires qui soutiennent le programme. Donc, à l'échelle nationale, il y a France Bois Forêt, donc l'interprofession, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique et également la Commission permanente de coopération franco-québécoise, puisqu'il y a un volet international du programme que je présenterai tout de suite. Et à l'échelle régionale, on a la section spécialisée par maritime France Bois Forêt et également la région Nouvelle-Aquitaine. On peut passer à la slide suivante. Donc pour vous présenter le sommaire de cette réunion aujourd'hui, donc je vais présenter d'abord le programme, ses valeurs, ses principes. Ensuite, on aura une partie plus concrète sur les différentes étapes de développement d'un projet, de construction du programme d'action. On rappellera également, on présentera les critères pour une commune pour lancer un projet. On aura ensuite un zoom sur les forêts pédagogiques de Nouvelle-Aquitaine et notamment un témoignage donc de Martine Heredia, qui est élue à la commune de Dax et qui est l'élue référente sur le projet de forêt pédagogique de Dax, qui était le projet pilote en Nouvelle-Aquitaine pour la première année du programme. Et enfin, on aura un temps de questions-réponses et on vous enverra à l'issue de cette présentation le formulaire de candidature que vous pourrez remplir et nous retourner. Donc, on vous donnera toutes les précisions sur la date d'échéance pour renvoyer ce formulaire.
Et là, du monde.
On peut passer à la diapo suivante. Donc, aujourd'hui, il y a 51 inscrits à cette réunion. Donc, on a des communes réparties sur toute la région Nouvelle-Aquitaine. Pour vous présenter les valeurs et les principes de ce programme, donc il y a un double objectif. Le principe des projets qu'on construit, c'est que la commune va confier à des enfants la gestion d'une parcelle de forêt pour les sensibiliser donc aux questions forestières, au devenir de leur forêt et à la multifonctionnalité de la forêt, à sa gestion durable. Donc, on propose vraiment aux communes de construire des projets territoriaux de sensibilisation aux enjeux forestiers pour les jeunes. Pour vous faire un peu l'historique de ce programme, on s'est rendu compte avec les communes de notre réseau communes forestières dans la France entière qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui pour les élus communaux de travailler sur la relation forêt-société, d'expliquer au grand public les questions de gestion de la forêt, comment ça fonctionne, pourquoi il est nécessaire parfois de faire des travaux en forêt, de faire des coupes, et d'y associer le grand public. Et on a décidé de lancer ce programme donc en 2019 en se concentrant sur le public jeune. On peut passer à la diapo d'après. C'est un programme qui qui porte des messages qu'on va retrouver dans la charte nationale des forêts pédagogiques. Donc, on voit sur la photo à droite de cette diapositive la signature de cette charte à la forêt pédagogique de Dax lors de l'inauguration en décembre dernier. Donc, les valeurs et les principes qu'on retrouve dans ce texte, c'est d'abord la gestion durable et multifonctionnelle des forêts. Donc, lorsqu'on construit le programme d'action d'une forêt pédagogique, on veille bien à ce que donc les enjeux sociaux, économiques et environnementaux de la gestion forestière soient abordés avec les enfants sur plusieurs années. On sensibilise également au rôle central des élus, puisque il y a vraiment un double aspect dans ce programme, c'est celui de la gestion forestière, mais c'est aussi celui du rôle des élus dans celle-ci, dans la gestion de la forêt. Ils sont garants de la transmission de ce patrimoine. Et quelque part, on propose aux enfants de se mettre en position de petits élus dans ces projets pour gérer la parcelle qui leur sera confiée. On a également un volet de sensibilisation à la citoyenneté et à la défense de l'intérêt général, puisqu'il y a une gestion collective des enfants d'une parcelle de forêt. Et enfin, un point qui est central dans ces projets, c'est celui de la transmission et de la sensibilisation sur le temps long de la gestion forestière, puisque d'année en année, le projet et la parcelle que la commune a confiée est transmise à un nouveau groupe d'enfants. On peut passer à la diapositive suivante. Donc je le disais tout à l'heure, ce sont des projets qui s'adressent à des publics jeunes. Donc aujourd'hui, on travaille avec 40 communes dans le réseau des communes forestières. On accompagne soit des groupes scolaires avec des enfants qui vont de la maternelle au CM2. On a un projet où il y a une classe de collège qui est associée. L'idée, c'est de pouvoir développer aussi ce travail avec les niveaux collège. Et on a également des structures d'éducation qui ne sont pas directement reliées à l'enseignement scolaire, à l'éducation nationale, comme des conseils municipaux de jeunes ou des centres d'accueil périscolaires. Donc, on souhaite vraiment, dans ces projets, impliquer les élèves, comme je disais, sur le long terme, les responsabiliser à la gestion de ce patrimoine et leur permettre de découvrir tous les apports de la forêt pour leur commune, mais plus largement pour le territoire. Donc, en leur permettant de rencontrer des acteurs de la filière forêt-bois, des associations, mais également des usagers. Alors pour expliquer rapidement les liens qu'on a avec le ministère de l'Éducation nationale, notamment quand on travaille avec des groupes scolaires, donc on a eu des échanges avec le ministère et on a également des échanges aux échelles locales avec les rectorats via les enseignants et les enseignantes qui sont impliqués sur les projets. L'idée, c'est vraiment que les communes forestières, on est en coordination de ces projets. Par contre, on ne se substitue pas au rôle des enseignants qui sont bien maîtres du programme pédagogique, de la manière dont ils vont transmettre les notions forestières à leurs élèves. Donc nous, on est vraiment là pour identifier les thématiques forestières à travailler, apporter des connaissances sur ces thématiques, mettre en contact avec des acteurs locaux. Mais la manière dont les notions sont abordées avec les élèves, ça revient aux enseignants. On peut passer à la diapositive suivante. Donc aujourd'hui, on a un réseau de 40 communes à l'échelle nationale. Là, on voit sur la carte les 7 premières forêts pédagogiques, puisque le programme a été lancé en 2019, en 2019-2020. Et on a eu une année scolaire d'expérimentation, donc 2020-2021, avec les 7 forêts pédagogiques. Donc aujourd'hui, on a une animation nationale du programme pour mettre en réseau toutes les expérimentations. L'objectif, c'est que cette mise en réseau permette aux élus, comme aux enseignants, comme aux enfants, de bénéficier des expérimentations qui se font ailleurs et éventuellement de créer vraiment des liens et des échanges entre des projets pour que les enfants puissent aborder la diversité des forêts, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une région, d'un département ou de la France. Et on a également un volet international du projet avec la constitution de binômes d'échange franco-québécois. Donc aujourd'hui, on a un binôme expérimental entre la forêt pédagogique de Lirac, qui se situe dans le Gard en Occitanie, et la commune de Girardville au Québec. Donc on souhaite créer très prochainement 3 nouveaux binômes d'échange franco-québécois. Voilà, et puis peut-être aussi préciser qu'à l'échelle des Landes, il y a plusieurs forêts pédagogiques, mais ça, Laetitia reviendra dessus par la suite. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aussi créer des liens, des échanges entre ces différents projets. Je pense que je vais passer la parole à Laetitia. Et n'hésitez pas, non, je ne vois pas de questions dans le chat. Donc,
Juste pousser ça. Peut-être te laisser poursuivre là, parce que du coup, attends, autant que je me mette comme il faut, s'il te plaît.
D'accord. Alors, donc là, c'était une partie plus concrètement, comment on construit une forêt pédagogique, quelles sont les différentes étapes, quels sont les acteurs associés. Alors, la première étape, c'est bon, bien sûr la volonté de la commune de s'engager dans le programme, et ensuite de construire donc ce qu'on a appelé un binôme élu-enseignant, ou entre l'élu et la structure qui sera responsable du groupe d'enfants. Il faut vraiment que voilà, ces deux parties soient intéressées et motivées par le projet. Et ensuite, on peut passer à l'étape de définition du cadre du projet, avec un premier échange entre les élus, les enseignants et les communes forestières, pour que nous, on puisse représenter dans le détail le programme, la méthodologie, pouvoir répondre aux questions si elles subsistent, et commencer à recueillir les attentes, les besoins donc des élus et des enseignants, et de pré-cibler les thématiques forestières qui seront abordées en priorité dans le projet, identifier la parcelle de travail qui sera remise aux élèves, et commencer à construire le projet pédagogique et le programme d'action. À l'issue de ces échanges, qui se font soit en visio, soit en présentiel, selon la commune, selon l'école, on établit, nous, commune forestière, une feuille de route qui va rassembler toutes les informations sur le projet, donc les différents acteurs impliqués, le programme d'action, les thématiques forestières travaillées. Et elle est bien sûr validée par la commune et par l'école qui met en place le projet. Il y a ensuite donc la première, disons, action formelle, c'est l'inauguration de la forêt pédagogique. Donc c'est un moment où l'élu remet officiellement la parcelle aux enfants, et c'est là qu'on signe la charte d'engagement des forêts pédagogiques que je présentais un peu plus tôt, qui rappelle donc les valeurs et les principes du programme. Et à partir de là, on peut déployer le projet et mettre en place les actions qui auront été prévues dans le cadre des différentes réunions d'échange de construction du projet. Alors, je vois une première question dans le chat. La sylviculture fait que ce projet s'inscrit dans un temps donné, couperase. Le lancement de ce projet pédagogique s'inscrit donc forcément dans une parcelle en cours de reboisement. Alors, pas forcément. On a vraiment des cas assez variés de parcelles qui sont confiées aux enfants. Donc, il peut y avoir des parcelles en cours de reboisement. Il peut y avoir également des parcelles beaucoup plus... beaucoup plus, où les bois sont beaucoup plus vieux, ça dépend. Vraiment, c'est souvent ce qu'on conseille aux communes dans le choix de la parcelle, c'est d'abord que celle-ci soit proche de l'école, parce que ça, c'est vraiment idéal pour que les enfants puissent s'y rendre à pied. C'est quand même plus simple que de devoir organiser un transport scolaire, mais c'est aussi possible. Et ensuite, on préconise une taille de 5 hectares maximum, ou alors si la taille est plus large et plus vaste, souvent on propose de réduire un peu un espace de la parcelle qui sera davantage visité par les enfants pour qu'ils se l'approprient.
Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade avant de poursuivre? Les questions viendront après. Donc merci Clara. Donc pour poursuivre concernant notre accompagnement, parce que bien entendu nous vous accompagnons tout au long de votre projet, donc l'objectif c'est que le réseau des communes forestières vous accompagne dans l'animation des forêts pédagogiques dès la construction du programme d'action qu'évoquait tout à l'heure Clara. Donc l'objectif c'est de vous accompagner sur l'identification si besoin de la parcelle pédagogique qui sera donc confier aux enfants, c'est de vous accompagner dans la définition des thématiques forestières que vous souhaiteriez aborder, dans l'élaboration de la feuille de route et du programme d'action. C'est vous donner aussi des outils pour vous accompagner dans l'animation des forêts pédagogiques. On va y revenir tout à l'heure. L'objectif, comme le disait aussi tout à l'heure Clara, c'est de faire le lien avec le territoire. Le projet a pour vocation d'amener les enfants à rencontrer des acteurs de la filière forêt-bois locale, d'aller éventuellement visiter des entreprises de la filière. Donc nous sommes là aussi pour vous donner des contacts en fonction des thématiques que vous souhaitez aborder avec les enfants, vous donner les intervenants qui sont les plus à même de pouvoir donc mettre en place une animation auprès des enfants. Et puis Clara le disait aussi tout à l'heure, l'objectif aussi c'est de faciliter le dialogue entre forêts pédagogiques au sein d'un réseau national, international, notamment dans le cadre de la coopération avec le Québec. Et puis, c'est également, à l'échelle locale, de travailler à un réseau des forêts pédagogiques. Tout à l'heure, Clara le disait, outre les partages d'expériences entre les élus, les enseignants, sur les actions qu'ils ont pu mettre en place, sur ce qui a fonctionné, n'a pas fonctionné, l'objectif aussi, c'est de faciliter le dialogue entre les enfants. Et nous, on est sur une grande région, la Nouvelle-Aquitaine, avec des massifs forestiers bien distincts, entre les massifs, le massif forestier du Limousin, celui des Landes de Gascogne, des Chênaies de la Dour ou le massif des Pyrénées, ça peut être intéressant aussi de mettre en relation les enfants des forêts pédagogiques pour qu'ils découvrent en fait les différents contextes forestiers à l'échelle d'une même région, voire même à l'échelle d'un même département. Hein, si je regarde le département des Landes, Madame Méridia en témoignera, il y a les Chênaies de la Dour, mais il y a aussi le massif des Landes de Gascogne, donc ça peut être intéressant que les enfants échangent sur ce même département ou qu'ils échangent aussi sur des thématiques communes. Je pense notamment à la question du risque incendie qui, sur les forêts pédagogiques actuellement, est une thématique qui ressort sur à peu près tous les projets. C'est une thématique aussi qui est fortement présente sur d'autres régions, PACA, Occitanie, donc ça peut être intéressant aussi de mener un travail de mise en réseau sur des thématiques bien précises comme celle du risque incendie, mais éventuellement d'autres également. Concernant le coût, alors c'est une question qui est légitime à se poser. Donc notre objectif, c'est bien entendu qu'on accompagne les collectivités, les projets de manière gratuite. Tout à l'heure, Clara vous a cité les différents partenaires financiers qui nous soutiennent pour animer et déployer ce programme. Donc cet accompagnement, il est gratuit pour nos adhérents. S'il y a un budget éventuellement à prévoir dans le cadre de ce projet, c'est un budget peut-être lié au transport. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité des parcelles forestières qui seront confiées aux enfants. Si la parcelle forestière, effectivement, est éloignée de l'école, peut-être éventuellement il faudra prévoir un budget pour transporter les enfants de l'école à la parcelle. Clara peut-être pourra m'en compléter, mais ce qui peut parfois faire peur, c'est que l'objectif, c'est pas forcément d'amener les enfants tous les jours, toutes les semaines sur la parcelle. Certains enseignants ont fait le choix d'amener les enfants, par exemple, à chaque saison, découvrir voilà, la parcelle sous un autre angle en fonction des saisons. Certains ont fait le choix d'amener les enfants avant chaque vacances scolaires. Enfin, voilà. Après, c'est à la libre appréciation, à la volonté des élus et puis des enseignants de se saisir de la parcelle et d'aller visiter la parcelle. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Et puis, s'il y a des coûts à prévoir éventuellement, c'est des coûts liés aux intervenants. Parfois, on a des interventions qui peuvent être liés à une prestation payable. Donc ça, c'est à déterminer aussi quand on élabore le programme d'action et qu'on identifie les potentiels intervenants, de voir s'il y a des intervenants qui seront derrière lesquels il y aura un coût. Donc ça, c'est à prévoir. Et puis éventuellement des outils pédagogiques dont peuvent se saisir les communes et les écoles. Je pense notamment à des outils tels que sur le massif de Gascogne, on a un livre de l'Association des entrepreneurs de travaux forestiers qui a un coût de 5 euros. Certaines communes ont fait le choix voilà, d'en offrir à tous les enfants qui sont intégrés dans le programme des forêts pédagogiques ou d'en doter l'école, la bibliothèque. Donc voilà, ça c'est après, c'est en fonction d'à vous, mais on va dire que c'est des coûts annexes. L'accompagnement véritablement des réseaux des communes forestières, il est à ce jour gratuit pour les adhérents. Voilà, donc on évoquait tout à l'heure aussi dans l'accompagnement, c'est que nous sommes présents aussi pour fournir des outils pour animer les forêts pédagogiques. Donc Clara tout à l'heure parlait de cette phase d'expérimentation que l'on a eue avec des territoires pilotes. Ça a été l'occasion de faire remonter les besoins des enseignants, des élus en termes d'outils, de connaissances sur la forêt et la filière bois. Donc le réseau des forêts pédagogiques à travailler sur différents outils, notamment une boîte à outils avec des fiches thématiques pour que les élus et les enseignants appréhende un peu toutes les thématiques liées à la filière forêt-bois. On a développé également, Clara pourra en dire peut-être un peu plus de mots, mais un poster sur l'aménagement forestier simplifié. Donc c'est l'occasion pour les enfants de se saisir de ce qu'est ce document d'aménagement qui n'est pas forcément facile à appréhender. Donc l'objectif, c'est d'avoir voilà un grand poster qui peuvent être utilisés en classe ou sur la parcelle pour appréhender le rôle de l'élu dans la gestion des forêts communales, le rôle de l'Office national des forêts, ce qu'on retrouve dans un document d'aménagement. Et puis, ça peut être source de différentes activités, notamment pour appréhender la faune, la flore sur la parcelle, etc. Donc ça, c'est des outils aujourd'hui qui seront mis à disposition des forêts pédagogiques pour leur animation.
On a une question juste dans le chat de Monsieur Serrano, savoir s'il y aura un budget pour traduire les supports en langue régionale.
Donc effectivement, c'est un sujet. Alors pourquoi cette question? C'est parce que Monsieur Serrano travaille dans le cadre d'une forêt pédagogique avec une école inclusive basque. Donc effectivement, il y a cette question de la traduction des documents qui se pose. C'est vrai que c'est un sujet qu'il faut qu'on creuse pour la prochaine rentrée scolaire. En tout cas, on s'était dit avec Clara que, par exemple, le grand poster sur le document d'aménagement forestier que l'on propose pourrait éventuellement être traduit. On pourrait y travailler ensemble à partir du fichier source. Donc voilà. Donc il faudra qu'on creuse cette question-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou si on poursuit. Donc, vas-y, Clara.
Juste pour ajouter un dernier point par rapport aux slides précédentes. Il y a aussi également, on n'a pas évoqué, un volet repeuplement dans le cadre de ce programme. Donc, dans le cadre, en fait, qui est financé, le soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est dans le cadre du plan de relance. Et donc, on a aussi des forêts pédagogiques qui sont spécialement développées sur les actions de repeuplement de parcelles qui auraient été touchées par des crises sanitaires. Donc voilà, si votre commune a demandé une aide dans le cadre du plan de relance qui a été sélectionné, ça peut être aussi l'occasion de créer une forêt pédagogique avec des actions spécialement ciblées sur ces questions.
Effectivement, on n'avait pas évoqué ce point-là et je vois dans le chat, alors effectivement, sur les Pyrénées, on travaille dans le cadre, voilà, avec des territoires du Pays Basque, donc une volonté d'avoir cette traduction possible en langue basque. Et puis sur la commune de Dax, je pense que Madame Heredia y reviendra tout à l'heure, les classes qui sont là, la classe qui est impliquée dans le projet, c'est une classe bilingue français-gascon. Donc voilà, d'où un projet aussi lié à la culture. Alors, dans l'idéal, quel est le nombre d'enfants qu'il faudrait dans un groupe? Alors là, ça dépend, c'est effectivement quand on est. Enfin, Clara, je te laisse.
Vraiment, il y a tous les cas de figure. On a des classes où on a des forêts pédagogiques, on va avoir seulement une seule classe avec un groupe d'enfants de 10-12 élèves. Et dans d'autres communes, on va vraiment avoir plusieurs groupes d'enfants, voire plusieurs structures qui sont impliquées. Je crois que c'est à Ichoux, Laetitia, où il y a un conseil municipal de jeunes, le centre périscolaire et deux classes qui sont impliquées dans le programme. Donc ça, ça vraiment, je pense qu'on le verra un peu plus tard quand Laetitia présentera les forêts pédagogiques de Nouvelle-Aquitaine. Il y a des projets très variés, tant sur les thématiques de travail abordées, les projets pédagogiques, que sur les enfants qui participent, avec des jeunes qui vont du niveau de maternelle au CM2 aujourd'hui. Et on a aussi des classes, notamment à Dax, on le verra avec Madame Heredia. La classe accompagnée, c'est une classe multiniveau qui va du CO2, du CP au CM2, je crois, avec un travail plus ciblé pour les élèves de CE2, CM2. Donc voilà, ça c'est aussi intéressant, les classes multiniveau, parce que les enfants sont amenés à travailler du coup sur le projet pendant plusieurs années, tout le long de leur scolarité dans cette classe multiniveau. Il y avait aussi une question, vous avez abordé le conseil municipal pour des jeunes, comment peut s'inscrire la forêt pédagogique dans ce cadre et quel support existe-t-il? Alors aujourd'hui, on avait une forêt pédagogique pilote en Normandie qui travaille avec un conseil municipal de jeunes. Dans ce cas-là, on travaille beaucoup avec l'élu référent du conseil municipal de jeunes et éventuellement, s'il y a une personne à la commune qui est chargée d'accompagner le conseil municipal, on monte le projet avec cette personne-là et avec les élus. Ce qui est intéressant dans le cadre des conseils municipaux de jeunes, c'est de pouvoir aussi associer les enfants dès la construction du programme, parce qu'ils peuvent donner leur avis aussi sur les thématiques qui les intéresseraient. Il y a tout un travail à faire sur le fonctionnement de la commune et de surcroît de la commune forestière. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que soit la forêt pédagogique sera le projet à part entière du conseil municipal de jeunes pour l'année ou pour plusieurs années, soit c'est un projet parmi d'autres qui est travaillé par le groupe d'enfants. Pour ce qui est des supports, on travaille sur les mêmes supports que avec ceux qui sont développés pour les élèves des classes scolaires.
On poursuit. Donc là, on a essayé de lister en fait les critères nécessaires pour commencer un projet, donc pour créer une forêt pédagogique. Donc premier critère, effectivement, d'avoir une commune motivée. Donc si vous êtes présent, c'est que vous avez ce projet suscite un intérêt chez vous. D'avoir effectivement une école motivée, c'est-à-dire de trouver des enseignants qui seraient prêts à apporter le programme, bien entendu avec validation du directeur, de la directrice de l'école. L'objectif étant que ce sujet forêt soit pleinement intégré dans le programme pédagogique de l'école, de la classe. Alors là, on parle d'école, on vient de parler d'un conseil municipal des jeunes. Donc là, voilà, c'est soit une école, soit un conseil municipal. Que l'objectif, bien entendu, c'est que la commune soit propriétaire de forêt. C'est important. Aujourd'hui, c'est un projet qui est à destination des communes propriétaires, avec un document de gestion durable de la forêt communale qui est valide ou qui est à venir. Autre condition, c'est que la parcelle de forêt communale soit facilement accessible pour les enfants. Éventuellement, le mieux, c'est que ce soit une parcelle proche de l'école, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, qu'on ait une parcelle qui soit facilement accessible de manière sécuritaire pour les enfants. Et que la commune, donc, soit adhérente au réseau des communes forestières. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Alors, une commune ou une interco? Alors, une collectivité propriétaire de forêt. Donc, je sais que, par exemple, vous êtes ici présent, la collectivité, voilà, il y a la communauté de l'agglo du Libournais qui est propriétaire, donc elle est propriétaire, donc il est tout à fait possible de travailler avec des classes de communes où sont présentes notamment les parcelles de la communauté d'agglo du Libournais. Je pense que, madame, vous étiez de ce territoire.
Il y avait aussi une question sur est-il possible de travailler avec le centre de loisirs communal si l'école n'est pas intéressée? Oui, tout à fait. On a des projets de forêt pédagogique qui sont menés avec des centres de loisirs. Alors, nous envisageons d'affecter une parcelle soumise au régime forestier. Comment l'ONF est associée au projet? Alors, l'ONF est associée au projet. Alors, ça, à l'invitation de l'élu. Ils peuvent être conviés dès les premières réunions de présentation et de construction du programme. Dans le cadre de la charte de la forêt communale, le technicien, enfin l'ONF, donc c'est souvent le technicien forestier territorial, peut accorder à la commune une journée par an de sensibilisation du grand public et des publics scolaires à la gestion forestière. Donc leur intervention dans ce programme se fait dans ce cadre-là, dans le cadre de cette charte. Et ils peuvent apporter bien sûr des conseils pour identifier la parcelle intéressante qui sera confiée aux enfants et également pour faire des interventions en forêt sur la présentation de la forêt communale, sur la présentation du rôle de l'ONF et de la manière dont ils travaillent avec les élus pour les conseiller dans la gestion forestière.
Donc pour poursuivre, on a souhaité mettre en avant donc aujourd'hui les 7 forêts pédagogiques qui sont accompagnées par le réseau de communes forestières en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous avez leur localisation sur la carte. Aujourd'hui, on a une commune en Haute-Vienne qui est la commune de Perrache Château qui travaille actuellement avec des classes CM1, CM2, si je ne me trompe pas. On a une forêt pédagogique en Gironde qui est la forêt pédagogique de Salonne. Eux ont choisi de travailler avec le conseil municipal des jeunes, donc c'est en cours de lancement. On a la forêt pédagogique à Ixchours. Donc Ixchours, comme le disait Clara, c'est un territoire qui a c'est une collectivité qui a décidé d'associer l'ensemble de l'école, à la fois l'accueil de loisirs et à la fois son conseil municipal de jeunes là également. Donc en fait, la mise en responsabilité, la responsabilité de la parcelle, donc de la forêt pédagogique, est confiée au conseil municipal des enfants. Donc c'est eux qui vont être amenés à prendre des décisions pour l'avenir de leur parcelle. Mais en parallèle, il y aura des actions de sensibilisation, des interventions qui seront menées sur cette thématique-là auprès des enfants de la maternelle jusqu'aux enfants de CM1, CM2, avec des interventions également ponctuelles pendant l'accueil de loisirs du mercredi. Donc c'est un projet qui est relativement large et qui a été rattaché au projet éducatif territorial, si je ne me trompe pas, qui était en cours de révision. Sur Mimizan, ils ont souhaité travailler sur là avec l'école de la plage, donc avec une classe de CM1, CM2. Rion-des-Landes, ils ont souhaité impliquer comme Ixchours l'ensemble des écoles jusqu'au collège, puisque là on a une classe de quatrième et un professeur d'art plastique qui avait volonté de travailler sur le projet et qui a décidé d'associer ces classes de quatrième pour travailler justement et le club média du collège pour favoriser la valorisation du projet. Donc, les collégiens vont être amenés à réaliser des reportages de la vie de la forêt pédagogique, de travailler sur le panneau d'information qui sera installé devant la parcelle en forêt. Donc, voilà, il y a différentes manières d'impliquer, en fait, les différents niveaux d'élèves dans ce projet-là. La forêt pédagogique de Dax, je laisserai la parole à Madame Martine Heredia pour faire part de son expérimentation et évoquer les projets qui sont menés sur le territoire. Et puis, on a la forêt pédagogique du Staritz, qui travaille avec l'école inclusive basque, où on a là aussi également diverses classes qui sont intégrées au projet. Donc aujourd'hui, on a des enfants de 3 à 14 ans, effectivement, qui sont impliqués, sachant, comme je vous le disais, que la responsabilité vraiment de la parcelle est confiée plus particulièrement aux enfants de CM1, CM2 ou au conseil municipal des enfants ou des jeunes lorsqu'ils sont impliqués. Alors sur les thématiques, il y a diverses thématiques, celles qui reviennent, qui sont communes à l'ensemble de ces forêts pédagogiques. Aujourd'hui, c'est tout ce qui est la sensibilisation à la gestion de la forêt communale et le rôle des élus dans la gestion de cette forêt communale. C'est tout ce qui a trait à la biodiversité, avec une volonté des enseignants notamment de travailler pendant cette première année sur un diagnostic de la faune et de la flore de la parcelle forestière. C'est un moyen pour les enfants aussi de s'approprier cette parcelle, de découvrir cette parcelle. Pour les communes où il y a des entreprises assez emblématiques de la filière, c'est aussi d'amener les enfants à la découverte des entreprises de la filière forêt-bois de leur territoire. Et puis une thématique qui est là, par contre, commune à tous, c'est la question du risque incendie, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc je vais peut-être laisser la parole, je ne vais pas aller plus loin sur cette
question. Juste avant.
Oui, pardon.
Pardon, oui, juste avant, il y a une question sur dans le chat sur la surface idéale pour une forêt pédagogique. Donc, ce qui est conseillé, c'est plutôt une forêt qui soit entre 3 et 5 hectares. Ce qui est important aussi, c'est que dans l'idéal, enfin, comme ça a été dit, elle soit localisée relativement près de l'école pour qu'il soit assez facile de s'y rendre pour les enfants et qu'il n'y ait pas de frais de déplacement qui soient à prévoir. Et enfin, ce qui est important aussi, c'est que la parcelle puisse illustrer une diversité d'enjeux en fait liés à la forêt. Voilà. Peut-être qu'on peut passer du coup à la diapo suivante et puis en effet laisser la parole à Madame Heredia pour nous présenter son projet.
Madame Heredia, effectivement.
Je me reconnais.
Donc, je vous laisse se présenter peut-être, vous faire un petit retour d'expérience sur votre projet, le premier projet de forêt pédagogique de la Nouvelle-Aquitaine.
Donc, okay. Vous passerez le petit film ou pas
après, on va le passer en suivant. Je vous laisse.
D'accord, ok. Bon, donc bonjour à tous. On m'a demandé, et c'est avec plaisir que j'ai accepté de témoigner de mon aventure avec la Fédération nationale des communes forestières. Donc, pour tout vous dire, je suis élue à Dax depuis 2020, donc nouvelle élue, nouvelle équipe, pour que vous compreniez certaines choses derrière. Voilà, et donc dans ce cadre-là, au mois de septembre 2020, j'ai été invitée, donc adjointe à l'environnement et au cadre de vie, j'ai été invitée à l'Assemblée générale départementale de la Fédération. Donc, inutile de vous dire qu'en mode compétence, j'étais au point zéro. Voilà, sinon que j'avais bien quand même une certaine volonté de mettre en œuvre de nouveaux projets, des choses qui ne se faisaient pas déjà sur la ville, évidemment. Et donc, j'ai rencontré ce jour-là Françoise Alric, la directrice générale, qui a présenté son projet dans une commune, la forêt toute école. Et ça a immédiatement résonné en moi. Pour deux raisons, parce que j'ai argumenté près de la fédération dans ma candidature que nous disposions, nous étions propriétaires à commune de Dax d'une forêt urbaine, je dirais, puisque vraiment très proche du connecté au centre-ville. Une forêt particulière dans la mesure où elle est faite de chênes pédonculés au milieu d'un département où il n'y a que des pins. Enfin, nous avions sur site à l'époque un animateur qui n'est plus là, mais bon, nous avions un animateur naturaliste et nous avions aussi la maison de la Varthe qui est un bâtiment qui permet de recevoir les enfants en cas de mauvais temps, plan B, aller aux toilettes, pique-niquer, etc. Et tout ça sur le même site. Donc ça, c'était côté ville. Et la chose que je trouvais vraiment très intéressante, c'était la nouveauté du projet, évidemment. Le fait est d'être accompagné, et pour pas cher, c'est une bonne chose aussi. Et surtout que c'était tourné vers les enfants, quoi, parce que moi, je pense que ce sont les meilleurs vecteurs de transmission de nos problématiques actuelles et des solutions éventuelles. Donc, tout ce qui touche aux enfants me touche immédiatement. Voilà, donc une fois que ceci a été validé, on s'est mis en recherche d'une classe, ça c'est le premier travail évidemment, et nous avons eu beaucoup de chance, le service éducation nous a d'ailleurs toujours accompagnés dans ce projet, nous avons eu beaucoup de chance de tomber sur deux institutrices d'une classe bilingue français-gascon, voilà, c'est l'originalité du coin, et très, très motivés par ce projet et qui se sont immédiatement impliqués. Donc voilà, donc là-dessus, bien, évidemment, il a fallu quand même deux, trois réunions en présentiel et en visio pour se caler sur ce qu'on allait faire. Et la première action, ça a été de chercher la parcelle ad hoc. Et là, effectivement, on s'est appuyé sur les compétences de notre technicien ENF, puisque nous avons un plan de gestion à la ville avec l'ONF en partenariat. Et donc, on s'est appuyé sur ses connaissances et en référant au service espace vert du fait que l'animateur naturaliste n'était plus là, pour choisir une parcelle de 4 hectares et des brouettes, très facile d'accès. Alors, je précise que l'accès, pour le coup, n'est pas immédiatement près de l'école, mais que bon, les enfants ne se déplacent pas tous les 4 matins et que pour l'instant, ces déplacements ont été pris en charge par le service éducation, c'est-à-dire qu'il faut un bus tout simplement et donc à hauteur de 90 euros à chaque fois. Et ça, pour l'instant, ça se passe comme ça très très bien. Voilà. Donc, on a un peu anticipé parce qu'évidemment, tout ce début de programme a été perturbé par la Covid, vous imaginez bien. Donc, on devait inaugurer la forêt, il a fallu reporter. Et puis, on a quand même un peu anticipé dans la mesure où la sortie annuelle du mois de juin de cette classe, évidemment, s'est déroulée dans notre bois de Boulogne, sur cette parcelle, en mode je choisis ma parcelle, pourquoi cette parcelle. Donc, le technicien ONF était effectivement présent. Ils restaient là toute la journée, puisque ça a duré toute la journée. Et ils ont ramassé plein de choses, puisque dans le projet, il y a la constitution d'un herbier. Les instits, elles les avaient superbement préparées à tout cela. On a amené la photographe, on a fait de la com là-dessus. Enfin, vraiment, c'était une super journée. Ça a très, très, très bien démarré. Ça s'est extrêmement bien passé. Les enfants étaient très, très intéressés, mais vraiment, et que des volontaires. Donc, comme l'a dit Laetitia tout à l'heure, on est non seulement sur une classe bilingue, mais une classe, donc du coup, avec des élèves du cours préparatoire jusqu'au CM2. Et pour vous dire déjà qu'en juin, les élèves qui étaient au niveau du CM2 devant passer en 6e à la rentrée, déjà, ils râlaient de ne pas pouvoir continuer. Donc, effectivement, il va falloir travailler dans ce sens, puisqu'il y a cette volonté. Donc, déjà, ils n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas continué. Très bien. Et l'avantage, c'est évidemment un mode de transmission, ben, il se fait naturellement, puisque les petits viennent avec nous quand même, ils participent. Donc, quand ce sera vraiment leur tour d'agir, ben, je pense que ça se fera facilement. Le bois est un bois très fréquenté par les familles le week-end et tout ça. Donc, tout ça, ça promène le week-end. Ça va montrer à papa, maman où est-ce que j'ai travaillé. Et bon, voilà. C'est aussi la transmission, ce que je disais au début, quoi, qui permet de sensibiliser également les parents. Voilà, ça, c'est très important. Donc, une fois qu'on a choisi la parcelle, fait cette journée. Le temps suivant, alors c'est pas forcément dans la bonne chronologie, mais enfin, je vous le dis quand même, donc nous avons quand même passé une délibération au conseil municipal pour valider ce projet, parce que c'est important, ça permettait de le valoriser, de l'entériner et de prendre date dans le processus, quoi, et dans nos projets municipaux également, hein, pour dire les choses comme elles sont. Voilà, ça c'était. Ensuite, on s'est revu au mois de septembre pour mettre en place le programme 2021-2022 et préparer enfin cette inauguration qui s'est tenue en décembre. Donc, pour ce qui est du programme, c'est juste ce que vous a dit Laetitia tout à l'heure. Alors, on devait le mettre en œuvre dès le mois de novembre. Bon, là, on a eu des Covid. Donc, on a décalé tout ça, mais ça va se faire, il n'y a pas de souci. Et donc, on a préparé cette inauguration qui a eu lieu le 2 décembre 2021 et qui est à l'origine du petit film qu'on va vous passer après. Donc, une après-midi, 14h-16h, hein, pas trop long parce que bon, les enfants ils se lassent assez vite, parce qu'évidemment, un peu de protocole, donc des discours, de la signature de la charte, donc tout ça c'était protocolaire. Mais aussi, les enfants sont intervenus, ils nous ont lu des textes sur le thème de la nature en français et en gascon, voilà. On leur a prêté ce jour-là, émanant de la fédération, un jeu de société, genre jeu de loi, mais à thématique nature, qui fait partie des outils qui ont été mis au point par la fédération. On a dévoilé nos panneaux, alors ça c'est une initiative locale, mais qu'on partagera bien volontiers, des panneaux qu'on a été posés sur le site évidemment, en français, en gascon, mais aussi pour préparer l'avenir en espagnol et en anglais. Voilà. Parce qu'on pense un peu au Québec là tout à l'heure, ça nous intéresse aussi. Donc on s'est préparé à cela. Grosse photo de famille et un gros goûter derrière. Voilà. Et tout ça entre 14h et 16h, et ça s'est parfaitement déroulé. Donc, nous en sommes plus ou moins là. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'adore participer de ce programme, que vraiment la fédération tient ses promesses, nous accompagne extrêmement bien, de façon rigoureuse, de façon avec les outils qui vont bien, qu'on développe au fur et à mesure. Vraiment, c'est que du plaisir que de travailler avec Laetitia, Clara, Françoise, etc. Donc, vous pouvez y aller franco, ça ne peut que bien se passer. Je voulais vous dire un mot de notre rôle en tant qu'élu. Ben, je trouve que c'est extrêmement valorisant que de porter ce type de projet. Alors évidemment, il faut un élu qui veuille s'en occuper et un référent, les institutrices et un référent éventuellement connecté espace vert, forêt, je ne sais. Voilà, bon, ça dépend de la taille de vos communes évidemment. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir tout ça sous la main et de façon très motivée. Ensuite, il faut coordonner les actions. Donc, il faut qu'il y ait l'un d'entre nous, ben, là en l'occurrence c'est moi, mais qui coordonne tout cela. et qui suivent, puisque c'est un programme qui se veut pérenne et c'est extrêmement important qu'il le soit, puisque là, on est parti pour 3 ans minimum, mais il n'y a pas de raison que ça s'arrête jamais, puisque ce qu'on veut, c'est expliquer aux gamins que le bureau sur lequel ils travaillent, il n'est pas tombé du ciel, hein. C'est un arbre qu'on a planté, qui a grandi, qu'on a soigné, et un jour que l'on a coupé de façon raisonnée, bien entendu. Et donc, il n'y a pas de raison que ça dure autant que la vie d'un arbre, et voire plus. Voilà. Je pense que ça serait sympa que vous voyez le petit film là qu'on a réalisé. On a beaucoup communiqué sur cette action, c'est de la communication très positive, bon, sur le site de la ville, sur notre Facebook. On a fait une émission radio avec les intervenants, c'était très sympa. Tout ça, les panneaux sur place, et on continuera de le faire. Il est extrêmement important de communiquer évidemment sur ces actions qui sont très vertes et très positives. Voilà. Je suis complètement à votre disposition. On pourra vous laisser mes coordonnées si vous avez envie d'échanger avec moi sur comment ça s'est passé, enfin bon, etc. Entre nous, pas de souci. Vous pouvez demander mes coordonnées à Clara ou à Laetitia, mail et téléphone portable. Je suis à votre disposition. Et est-ce qu'on peut lancer le petit film, s'il vous plaît?
Alors, je vais tenter de vous le lancer et surtout de vous partager le son. On n'a pas fait de test en amont. Alors, je vais... Voilà. Donc, je partage l'écran. Inclure le son, ça doit être bon.
Projet de forêt pédagogique de Nouvelle-Aquitaine, un projet en partenariat.
Vous entendez? Ça a fonctionné?
C'est un peu lâché là.
La mairie
nationale.
Ça vous avez entendu là?
J'ai l'impression qu'on entend, ouais.
Alors, je vais laisser.
Comment c'est se télécharger là?
Nicole Robert Badinter.
C'est un projet de sensibilisation à la forêt. C'est pour expliquer aux gamins que la table en bois sur laquelle ils travaillent à l'école, elle n'est pas tombée du ciel. Hein. C'est un arbre qu'on a planté, c'est un arbre qui a grandi, c'est un arbre qu'à un moment donné, on a dû couper.
C'est un membre de l'école, à toutes les classes des écoles de Dax. Et il nous a paru très intéressant du point de vue pédagogique. Et donc, on a tout de suite montré notre intérêt pour ce projet.
Les élèves se sont donc vu confier la responsabilité d'une parcelle de 4 hectares du bois de Boulogne afin d'étudier tous les aspects de la gestion forestière.
Ramasser les déchets et étudier les plantes et les autres choses.
On nous a donné les grandes lignes, il a fallu un petit peu dégrossir le travail et voir ce qu'on souhaitait travailler. Donc on l'a fait à deux. Chacune a amené ses idées, on a pu s'enrichir, c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'être deux sur la classe, on a pu s'enrichir mutuellement.
C'est encadré avec d'une part la Fédération nationale des communes forestières, où nous avons des chargés de mission au niveau région et tout, pour accompagner sur les programmes que l'on va faire. Donc on brasse un petit peu tout ce qui se passe sur la parcelle, et c'est important qu'ils acquièrent cette notion, et qu'ils démontrent qu'en fait, bon, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des incendies, mais il y a aussi des moments où les arbres ils sont mûrs quelque part et qu'il faut faire quelque chose. Et puis, on y va aussi pour se divertir, pour prendre de l'air, pour prendre le frais, pour chercher des champignons. Et puis que le bois grandit, que le bois sert à faire des meubles, sert à faire des charpentes, des maisons, et qu'il faut le gérer tout cela.
Objectif de ce programme, transmettre la parcelle entre les classes d'année en année pour continuer le travail engagé et que les enfants deviennent les porte-parole de la vie forestière.
On est à une époque où la société est surtout en position critique par rapport à l'exploitation de la forêt. Et or, il n'y a pas que ça. Et je crois qu'il était important de passer des messages. On a pensé que ce seraient les enfants qui les passeraient les mieux parce qu'on les prend à un moment donné où ils ont les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Ils comprennent peut-être plus vite que nous. Je reste persuadé qu'à aujourd'hui, il faut qu'ils se fassent leur opinion eux-mêmes en y vivant dans la forêt, entre guillemets, bien sûr, ils ne vont pas passer là tous les jours dans la forêt, mais c'est important qu'ils se fassent une idée et de tout ce qui se passe dans la société. Quand on ouvre une émission, on a souvent c'est un thème bien précis, ciblé, tandis qu'eux, ils vont faire tous les thèmes et ils se construiront leur opinion.
Voilà, je ne sais pas du tout si vous avez pu suivre convenablement la vidéo. J'espère qu'elle a fonctionné. J'ai vu que Clara avait transmis le lien dans le chat, donc n'hésitez pas à aller re-regarder la visio de présentation. En tout cas, merci beaucoup, Madame Heredia, pour votre témoignage. Effectivement,
je vais...
La forêt pédagogique de Dax est vraiment un très bel exemple de cette coopération, de ce partenariat entre la commune, les enseignantes et les enfants qui sont aussi fortement impliqués. Je me souviens de l'enseignante, pour la petite anecdote, qui nous disait que les enfants, effectivement, comme vous disiez, adoraient amener leurs parents sur la parcelle le week-end en indiquant « c'est notre parcelle », donc ils se sont vraiment appropriés cette parcelle de forêt pédagogique qui leur a été confiée. Et c'est vraiment un beau projet qui, on espère, effectivement, se poursuit encore quelques années. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, notamment profiter de la présence de Mme Heredia pour si vous avez des questions sur son expérience.
Je suis joignable. Non, mais en fait, c'est vrai que c'est pas super compliqué. C'est du temps. C'est beaucoup de temps essentiellement, parce que bon, effectivement, à mettre en place et à suivre, parce qu'il ne faut rien lâcher, mais après. En termes de coûts, franchement, pour l'instant, c'est très, très peu. Et c'est sûr que le jour où on s'envolera au Québec, ça va changer la donne. Mais peut-être pas encore. Et puis c'est très communicant. Enfin, vraiment, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire.
Merci.
Et je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit Laetitia là, concernant les échanges au sein d'un même département où finalement on est sur des forêts différentes. Et ça aussi, ça peut être je dirais assez facile à gérer, si je puis dire, et forcément très intéressant aussi, quoi. C'est une très bonne idée, ça.
Merci beaucoup. Donc juste pour terminer, donc vous informer que donc là on est dans une phase où on va rentrer dans une phase de déploiement de nouvelles forêts pédagogiques à la prochaine rentrée scolaire, donc à la rentrée de septembre. Donc notre objectif c'est d'identifier déjà de potentiels projets. Donc on va vous transmettre dès demain un formulaire en ligne à compléter si vous êtes intéressé par le projet. L'objectif c'est de voir avec vous où vous en êtes dans votre réflexion et voir quels seraient les projets que l'on pourrait accompagner pour une mise en place effective dès la rentrée scolaire. Et en fonction du nombre de projets, de toute façon, on verra les projets éventuellement à accompagner en priorité, mais tous les projets seront bien entendu accompagnés tout au long de l'année. Donc, on vous invitera à remplir ce formulaire en ligne pour le début du mois d'avril. On vous précisera la date. L'objectif étant que d'ici là, si vous êtes intéressé par le projet, d'essayer d'aller à la rencontre des enseignants, des directeurs d'école, pour voir s'ils seraient intéressés par le projet et voir effectivement les classes qui pourraient potentiellement prendre part à ce beau projet. Alors, j'avais une question. On vous enverra bien entendu toute la présentation de ce soir. On vous remettra le lien de la vidéo, des plaquettes de communication si besoin de les transmettre aussi aux enseignants et directeurs s'ils veulent avoir un peu plus d'informations sur le projet. Et puis on vous transmettra donc le formulaire en ligne à remplir. Clara, je ne sais pas si tu as des compléments à apporter.
Non, pour moi c'est bon.
Est-ce que vous avez des questions ? Autre question ? Non, pas d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas, on est à votre disposition hein, pour échanger sur le projet. Donc, sur la partie Limousin, ça sera peut-être plus Théodore qui sera Théodore Dubos qui sera votre interlocuteur. Moi, pour la partie Aix-Aquitaine. Et puis, Clara, bien entendu, référente nationale qui est à même est plus à même de répondre à tous ces projets et partager les expérimentations avec cette vision nationale du réseau des forêts pédagogiques. En tout cas, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous, à voilà, vous poser toutes les questions potentielles, à revenir vers nous si des enseignants ont aussi des questionnements, des craintes, parce que c'est ça aussi, hein, parfois les enseignants ont des craintes par rapport à ce projet qui peut paraître de prime abord lourd, mais qui, comme le dit Clara, n'a pas vocation à se substituer aux programmes pédagogiques en place et aux méthodes des enseignants. Donc voilà. Si pas de questions, je vous propose d'en rester là. Vous avez nos coordonnées et on vous envoie dès demain tous les documents.
C'est parfait. Merci Laetitia.
Merci à vous.
Clara.
Merci à tous pour votre présence.
Merci. Bonne soirée.
Merci à tous.
Bonsoir.
Bonsoir, bonne soirée.
Merci.